Mardi 11 janvier 2023, il est 17h. Dans un instant, le journal en français à la présentation. Je suis Rafika Taher. À la une ce soir, désormais connue, Saraounia Kambari a succédé à la Saraounia Aljima de Lougou, décédée samedi dernier. Mais qui est la nouvelle Saraounia? La réponse dans cette édition. Les enseignants contractuels du secondaire de Ngingimi dans la région de Diffa en grève de 4 jours à compter d'aujourd'hui, à suivre les raisons évoquées par leur syndicat. Dans la partie magazine, nous parlerons de l'importance des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Depuis lundi, tout le pays est informé de la désignation d'une nouvelle reine de Lougou située dans le département de Dogondouti. Mais qui est la Saraounia Kambari? Réponse dans cet élément de Ali Obawa, notre correspondant à Dogondouti, qui s'est entretenu avec Goubé Kahia, un des frères de la nouvelle Saraounia de Lougou.
Kambay est né ici à Lougou. Après son sevrage, Chitumu l'a amené avec lui. Elle a grandi dans son foyer. C'est lui qui l'a fait marier. À ce jour, elle a 80 ans. Elle a 3 enfants de sexe masculin. Avant qu'elle ne vienne ici, elle était à Toudou. Toudou, c'est au bas-fond là-bas, pas plus de 10 km. Et voilà qu'aujourd'hui, elle est la désignée pour être la Saraounia issue de notre foyer. Elle est la 17e Saraounia avec le nom de Kambay. Vous savez, le mythe est relatif aux lignées. Dans notre lignée, elle est la 3e à être désignée comme Saraounia, car il y avait 2 autres auparavant qui ont tenu ce poste. Et l'autre lignée, c'est la lignée de Adoua, là où la défunte a vécu. Leur lignée est dénommée Adoua et la nôtre Awaza. Chitumu, qui l'a élevé, a été chef et magaji de Lougou. Il s'appelait Kounia Lougou et il a gardé cette fonction de chef et de magaji jusqu'à sa mort.
De magaji, c'est de Moutouenaï.
Dans la région de Diffa, les enseignants contractuels du secondaire lancent un avis de grève de 4 jours à compter de ce matin. Cela fait suite d'une part au non-paiement à terme échu de leur salaire et d'autre part à certaines raisons évoquées ici par le secrétaire général du syndicat des agents contractuels de l'enseignement secondaire de Ngingimi. Jari Rilabo Seydou au micro de Maïna Abdoulaye.
À une première qu'ils ont observée la semaine passée, du fait que le gouvernement n'a pas appelé à négociation par rapport à un certain nombre de préoccupations qui minent le secteur éducatif, à savoir le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Ce groupe d'enseignants pense que l'évaluation ne doit pas être un critère de recrutement des enseignants contractuels. Il faut tenir seulement compte de l'ancienne. Autre chose également, c'est par rapport au paiement à terme d'issue. Certes, il y a des gros efforts qui sont faits par Niger Post et l'État du Niger. On pense qu'aujourd'hui, la sortie de la liste des présélections faite en décembre par la fonction publique, en quelque sorte, qu'il n'a pas du tout eu l'assentiment des enseignants contractuels. Ici, on doit faire le recrutement, c'est d'avoir ce qui a fait 19 ans, 18 ans, 10 ans. Il y a une autre question que nous pensons vraiment utile, c'est par rapport au recrutement de ceux qui sont frappés par la limite d'âge.
Toujours en région, en cette période d'Harmattan, les thermomètres affichent des températures très basses dans certaines régions du Niger. Dans le département de Tchintabaraden, à Tawa, les responsables d'école recommandent aux parents d'élèves de protéger leurs enfants pour qu'ils ne tombent pas malades. Mahamman Badamasi Oubankadé, le directeur de l'école primaire élevage, est joint au téléphone par Alamine Ouacha.
Ce qu'on peut dire sur ce problème de froid qui sévit actuellement à Tchintabaraden, on a constaté une très mauvaise fréquentation au niveau de nos écoles, surtout aux classes inférieures, les maternelles et les cours inférieurs, généralement le CICP. Donc, nous, les conseils que nous produisons aux parents, c'est de bien protéger leurs enfants avant de venir. Parce que les enfants ne viennent pas fréquemment, il y a eu une grande absence due aux maladies et causées par ce froid. Nous, ce qu'on conseille aux parents, c'est de bien habiller leurs enfants et de leur éviter surtout la consommation de produits congelés.
En vue de sécuriser les élèves et leur donner un meilleur cadre d'études, la réalisation d'environ 3000 classes en matériaux définitifs est prévue au plan national dans le cadre de l'initiative Zéro classe en paillote lancée en 2022 par l'État. Pour la région de Niamey, le projet est étalé sur une période de 3 ans, selon Abdou Ali Munkaila, secrétaire général adjoint de la ville de Niamey. Cependant, il précise que les fonds nécessaires ne sont pas encore disponibles. Il explique au micro de Maman Ada.
Au niveau national, le président de la République a un vaste projet d'infrastructure scolaire de plus de 3000 classes en matériaux définitifs. Dans ces 3000 classes-là, la région de Niamey a bénéficié de 690, dont 600 au primaire et 90 au secondaire. Des 600 du primaire ont déjà débuté et il y a eu le lancement le 6 novembre 2022 à l'école Valimo. Le virement de 1 milliard qu'avait émis la ville de Niamey pour l'exercice 2022 n'est toujours pas effectif compte tenu de l'ordre administratif. Sur les 3 années, là, la ville entend débloquer chaque année 1 milliard pour régler définitivement le problème de classe en Payotte. Malheureusement, même la semaine surpassée, il y a eu encore 2 incendies dans 2 collèges de la capitale.
Au quartier Dar es Salaam de Niamey, plusieurs cases ont brûlé hier après-midi dans un incendie qui s'est déclaré. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais on a enregistré d'importants dégâts matériels, souligne une des victimes interrogées par nos reporters Assoumane Aboubakar et Maman Ada.
Cet incendie s'est réellement déclenché chez moi. J'ai 2 femmes et 11 enfants. J'étais dans la chambre avec une de mes femmes en compagnie de son ami qui l'aide à découper les légumes lorsque nous avons vu les flammes s'élever derrière la chambre et je me suis précipité dehors en criant à l'aide. Malheureusement, en cette période de vent fort, quand le feu attaque des secours, c'est la catastrophe. Aussi, il y a eu beaucoup de dégâts. Tous nos biens, meubles, documents et vivres sont partis en fumée car les pompiers étaient arrivés après l'extinction du feu. Dans ces circonstances où nous avons tout perdu, nous ne refuserons aucune forme d'aide. Sinon, je prenais la charge de ma famille avec la sueur de mon front.
Avec la crue guinéenne, on constate une montée des eaux du fleuve Niger. C'est pendant cette période que les risques de chavirement des pirogues augmentent. Alors, pour éviter d'éventuels drames, le chef des piroguiers de Gaya attire l'attention des piroguiers. Maman Serkin Jergi, au micro de Fadel Alou.
Nous sommes dans la période la plus inquiétante pour les activités fluviales. C'est pourquoi nous appelons les pirogues à plus de prudence. Si ta pirogue peut prendre 6 personnes, tu peux t'en tenir à 4 ou 5 passagers. Parce qu'au cours de la traversée, un vent peut vous surprendre au milieu du fleuve, ce qui peut causer des dégâts. Mais si la pirogue n'est pas pleine, même s'il y a un vent fort, elle ne peut pas chavirer. Aussi, nous sommes en train de sensibiliser les usagers sur les précautions à prendre pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Car par le passé, des pirogues ont chaviré en tuant plusieurs personnes. Heureusement, de l'année dernière à cette année, nous n'avons enregistré qu'un seul accident pendant la saison pluvieuse. Pendant ce froid, nous avons pris assez tôt des mesures préventives appelées à la modération. Et les contrevenants subiront les conséquences quand nous les dénoncerons aux autorités. Et comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir pour ne pas endeuiller des familles.
Revenons à Difa, à Nguingimi, où les producteurs qui pratiquent la culture de contre-saison rencontrent certains problèmes pour arroser leurs plantes et les préserver des animaux. C'est ce qu'explique Boubacar Moussa Jibo, le président du site de maraîchage de Bouleram. Il est au micro de Maina Abdoulaye.
La difficulté, c'est qu'en fait, si l'on ne surveille pas son champ, eh bien, les animaux détruisent toute la production. Parfois, si l'on part dès le petit matin, il faut au Maghreb pour revenir. Mais la problématique, c'est que c'est la nuit que les animaux font irruption dans les champs. Et notre principale sollicitation, c'est l'eau. Il y a de l'eau, bien sûr, mais nous avons le problème des motopompes. Et voilà que la vie coûte cher aujourd'hui. Le carburant que nous achetons en Naira, il coûte 3 500 naira. Il y a aussi l'huile moteur à Moscou qui coûte 2 500 naira. C'est pas facile. Si nous arrivons à avoir un app de grands panneaux solaires et que l'eau devient abondante, notre production va augmenter. Nous allons pouvoir même alimenter l'extérieur en produits, surtout si le périmètre est clôturé pour empêcher l'entrée des animaux. Ce serait une grande avancée.
Et de la région de Tillabéri, environ 100 jeunes de la commune de Wallam organisés en groupement bénéficient d'un accompagnement de leurs activités de maraîchage. Selon Abdelkarim Moussa, maire de la dite commune, ce soutien c'est pour les occuper et leur éviter d'être enrôlés par les groupes armés non étatiques. Abdelkarim Moussa explique au micro de Adam Dawaki et Assoumane Aboubakar.
Ici à la commune de Wallam, nous sommes en train d'inciter les jeunes à s'engager dans le maraîchage. Et dans notre planification, sur toute l'étendue du territoire communal, nous sommes en train de voir comment disponibiliser de l'eau suffisamment et créer des sites maraîchers pour retenir nos jeunes pour qu'ils n'aillent pas à l'exode ou bien qu'ils ne soient pas tentés par les gangs. Dans le mois de septembre, l'État a amené 42 motopompes. pour les groupements. Les gens sont organisés en groupement et les femmes aussi. Présentement, il y a un site qui vient d'être remis par la commune à Saint-Jean. Ils sont organisés en groupement. Donc vraiment, nous sommes en train de faire tout pour appuyer nos jeunes. Même s'il y a des critères de vulnérabilité, il faut que les jeunes soient organisés en structure. Ils s'organisent en groupement, ils viennent chercher l'agrément ici au niveau de la commune. C'est dans ce cadre seulement qu'on peut les appuyer parce qu'ils ont déjà une reconnaissance. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour organiser toute la jeunesse de la commune parce que nous nous basons sur cette jeunesse pour développer notre commune.
En magazine ce soir, les mauvaises pratiques d'hygiène et d'assainissement sont l'une des principales causes de nombreuses maladies au Niger. C'est ce que déplore le président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régéa, Ousmane Dambaji, qui explique qu'il faut promouvoir les pratiques d'hygiène à la base. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
L'hygiène et l'assainissement sont des activités qui concourent à la promotion de la bonne santé et du bien-être pour un individu. Tant qu'on ne vit pas dans un environnement sain, on peut toujours tomber malade. Aujourd'hui, toutes les maladies handicapantes et souvent mortelles sont liées au manque d'hygiène et d'assainissement. Quand on investit $1 dans l'assainissement, on peut récupérer $20. Cela veut dire que l'assainissement, l'hygiène sont des éléments extrêmement importants pour le bien-être et notre santé de tous les jours.
Comment promouvoir les bonnes pratiques en matière d'hygiène et assainissement?
Les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement commencent d'abord de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire comprendre à toutes les populations du Niger que nous devons promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous prenez le cas du Niger, sur le 24 millions de personnes que nous sommes, plus de 17 millions de fécales libres. Comment, dans ces contextes, faire la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement? Imaginez nos pratiques quotidiennes dans nos familles, dans les rues. Nous mangeons, nous jetons des sachets partout. Vous allez voir là où on vend à manger à côté des ordures, à côté des caniveaux. Donc, l'éducation environnementale, l'éducation sur le plan sanitaire et d'hygiène doit être en tout cas quelque chose d'extrêmement important à promouvoir dans tous les ministères, dans tous nos services. Rentrez dans les toilettes, vous allez voir. C'est des toilettes impraticables, alors que les toilettes sont des nids habituels par excellence pour des microbes et des maladies incurables. Et aujourd'hui, au Niger, sur 1000 familles, à peine vous allez trouver 2 familles où vous allez trouver des toilettes correctes, adaptées au contexte. C'est pour ça que le président de la République, chef de l'État, a prévu des branchements particuliers parce qu'on ne peut pas faire la promotion de l'hygiène et l'assainissement sans avoir la disponibilité de l'eau. Imaginez la simple question de lavage de main. Par mois, la femme a au moins une semaine ou 5 jours de menstruation. Imaginez la gestion non correcte des menstrues. L'eau, c'est extrêmement important pour la question d'hygiène et d'assainissement.
Plusieurs organisations de la société civile, telles que le Régéa, mènent depuis plusieurs années des campagnes de sensibilisation de nos concitoyens en matière de promotion des pratiques d'hygiène et d'assainissement. Qu'est-ce qui ne marche pas?
On pense que les questions d'hygiène sont réservées exclusivement aux riches. C'est ça l'erreur. En tant que pauvre, vous devrez être propre pour éviter d'aller chez le médecin. Imagine tous les déchets issus des hôpitaux qui va directement dans le fleuve Niger. La question d'hygiène et d'assainissement, c'est une question de tout le monde. On doit nous tous se réveiller pour regarder la même direction. Notre santé dépendra de comment nous nous comportons sur l'environnement.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place au journal en tamashek avec Ternan Foudaï Ahmed. À 18h15, suivez le forum sur la relance de l'industrialisation du Niger. Quelles sont les opportunités, les défis et les perspectives?
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangou sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et Studio Kalangou, au rythme du Niger.